Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre sur cette table ronde qui va être interactive. En premier lieu, je vais laisser mes invités se présenter et parler un peu de leur activité du moment. Donc, dans l'ordre, Julien.
Bah écoutez, moi je suis Julien Poire, je suis podcasteur sur un podcast qui s'appelle Les Voix d'Altarid, sur un autre qui s'appelle Trop Long Palu, un site pour des jeux de rôle courts en une page. Ça, c'est la principale activité. Sinon, j'écris aussi des jeux, sans meneur en particulier, dont Deux Mauvais Rêves et Tour de Garde.
Bonjour, je m'appelle Manuel, je suis aussi podcasteur aussi sur Trop Long Palu, et puis je fais un autre podcast qui s'appelle Ludologie, qui parle de jeux, étonnamment. Et sinon, je fais des jeux de rôle, des jeux vidéo, des jeux de société, j'ai fait un jeu de rôle et demi sans meneur. Voilà.
Bonjour, moi c'est Eugénie, j'ai un blog qui s'appelle Je ne suis pas MJ mais, et j'ai alimenté pendant 2 ans la rubrique Le gymnase des PJ, donc Casus Belli. Je participe au blog Et pourtant elle joue, qui recense des témoignages de joueuses en JDRI. Et j'avais un dernier... Ah oui, et je fais des ateliers rôlistes. Il y en a un qui est prévu demain matin, je ne sais pas si vous pouvez encore vous inscrire s'il reste des places, mais foncez.
Moi, je m'appelle Thomas Munier, je suis auteur de jeux de rôle, donc j'écris des jeux qui se passent soit dans la forêt, soit dans des rêves. Alors, j'ai fait des jeux avec MJ, mais on n'en parle pas. Les jeux sans MJ que j'ai fait, il y a Inforenza, S'échapper des faubourgs, Dragonfly Motel, Le Témoignage et Ho'oponopono. Voilà, pour les principaux.
Donc voilà, nous allons commencer cette conférence. En premier lieu, nous allons passer à une sorte de contrat social. Vous allez pouvoir poser des questions à nos invités. Ça sera fait une question en une phrase simple et pas de témoignage de jeu pour pas que ça allonge trop. Et ensuite, vous redonnez la question à la personne qui vous aura passé le micro. Ah, on a déjà une question. Je voulais commencer doucement par... On va faire dans l'ordre, mais je note. Donc, nous allons très probablement employer le terme de joueuse. Donc, ne vous offusquez pas, il n'y a pas de joueur ou joueuse, il n'y en a pas un qui domine l'autre.
On fait voilà. De l'accord militant, voilà.
En même temps, oui. On est debout. Voilà. Autre petit point aussi qui est demandé, on va commencer par une petite question déjà. Qui a déjà joué à du jeu de rôle? Ok, on a un public un peu connaisseur. Qui a déjà joué à un jeu de rôle sans meneur? Ah, c'est bien. Eh bien, qui avait une question par ici? C'est toi. Eh bien, ça tombe bien, parce que du coup, tu vas pouvoir commencer par poser ta première question.
Qu'est-ce que cela fait de jouer sans meneur? En fait, on peut être soi-même le meneur d'un jeu, en fait.
Donc ta question, c'est plus, est-ce que ça a un intérêt particulier de jouer sans meneur par rapport à un jeu avec meneur? Est-ce qu'il y en a un? Une personne qui veut commencer.
Pour moi, ce n'est pas la même chose, en fait. Quand on parle de jeu sans meneur de jeu, on s'imagine ma table, comment elle fonctionne habituellement. Et bien, on enlève le meneur. Et ce serait ça, un jeu sans MJ. Il y a aussi des jeux qu'on appelle tous MJ. On s'imagine, moi, quand je suis meneur à la table, et s'il y avait plusieurs moi comme, qui font la même chose que moi, et ça, ce serait un jeu tous MJ, ça existe aussi. Mais en fait, ce n'est pas ça. Le jeu sans MJ ou le jeu tous MJ. C'est un jeu dans lequel le tandem MJ-PJ n'a aucun sens. N'imaginez pas des joueurs comme quand ils sont PJ dans un jeu sans meneur. N'imaginez pas des meneurs comme ils sont dans un jeu avec meneur. C'est une autre dynamique, c'est une autre façon de jouer, c'est d'autres plaisirs, c'est d'autres façons de construire, c'est d'autres histoires. Et c'est d'autres jeux aussi. C'est juste une expérience qui n'est pas la même et qui ne se transpose pas aussi facilement.
Je vais prendre un exemple concret. En jeu de rôle avec meneur, on a facilement l'émergence d'effets qu'on appelle Scooby Gang ou Team de PJ, à savoir qu'on a un groupe de héros face à un univers plus ou moins hostile. Le jeu sans meneur, de par sa structure de jeu, favorise l'émergence d'autres types de récits, notamment des récits chorales, où on va avoir plusieurs trajectoires individuelles de personnages qui se croisent continuellement. Et c'est à minima intéressant parce que on peut raconter d'autres histoires, des histoires différemment. Donc ça permet d'aller travailler des narrations variées, ce qui veut dire que les deux sont complémentaires.
Je vais apporter une petite nuance. Moi, je me suis mis au jeu sans MJ parce que je voulais pouvoir jouer un personnage dans mes propres univers, quoi. Et ne trouvant personne en fait qui voulait être MJ à mes propres jeux avec moi en joueur, j'ai fait ça. Du coup, les gens n'avaient pas le choix. Et en réalité, ça, on retrouve quand même un feeling qui est vraiment profondément immersif, voilà, de pouvoir être perso dans ses propres univers, dans ses propres délires, quoi. Et en même temps, effectivement, avec le fait qu'on a des dynamiques sociales, comme vous l'avez dit, hein, et créatives qui sont vraiment différentes, le côté récit choral. On est quand même forcé de constater que, au bout d'un moment, on va aller effectivement sur d'autres types de récits, d'autres types d'aventures. Mais j'ai toujours gardé à l'esprit que c'était quand même rigolo, ne serait-ce que pour l'expérience immersive, de s'imaginer qu'en fait c'était la même chose. Et c'est-à-dire que personnellement, quand je suis dans un jeu sans MJ, si je joue mon perso, je joue mon perso. J'essaye pas de penser en tant que MJ, je le ferai plus tard, à un autre moment dans le jeu.
Et moi, j'ajouterais que quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, on m'a vendu l'idée d'un jeu où je pourrais vraiment participer à l'histoire, vraiment décider de ce qu'elle allait se passer, contrairement à un roman ou un film. En pratique, dans un jeu de rôle, ça arrive, mais ça n'arrive pas tout le temps, alors que dans un jeu sans meneur, le côté qui m'intéresse le plus, je pense, c'est de participer tous ensemble à la création d'une situation et de ne pas avoir quelqu'un qui a la main mise sur cette situation. Et donc d'être surpris par les apports de chacun à la partie beaucoup plus que quand je suis meneur de jeu et que je présente le jeu aux autres. Voilà.
Très bien. Est-ce que déjà d'autres personnes ont... Eh bien, ça se lève très vite, c'est bien.
Alors, bonjour. Moi, j'aimerais poser une question concernant la résolution des conflits dans le jeu, puisque le MJ joue principalement le rôle d'arbitre aussi. Donc, qui résout les conflits? Qui a la main mise vraiment dans des situations un peu conflictuelles?
Alors, moi, je veux bien répondre. En plus, j'ai fait un jeu où on joue des gens très ambitieux qui se tirent la bourre, et c'est un jeu sans meneur pour autant, et qui ont potentiellement des enjeux conflictuels. Alors, il faut commencer par la question du meneur en tant qu'arbitre dans du jeu avec meneur. Qui servirait d'arbitre entre qui? Moi, je crois que le meneur sert souvent d'opposant plus qu'arbitre, puisque les jeux sans meneur gèrent assez rarement l'opposition entre deux PJ. Et en tout cas, c'est rarement le centre du jeu. Donc, il n'est pas vraiment en position d'arbitrage. Il est en position d'envoyer des pains et en face de gérer plus ou moins la puissance des pains, en gros, pour que les joueuses en face puissent relever les défis. Dans le cadre du jeu sans meneur, ces dynamiques de conflit-là n'ont pas vraiment de sens, ce que disait Eugénie quand elle disait qu'il faut penser les choses un peu différemment. Elles n'ont pas vraiment de sens dans la mesure où, effectivement, la mécanique du jeu peut servir à arbitrer. Si on doit lancer un dé et qu'on a décidé au début du jeu que si c'était un pair, c'est Eugénie qui gagne, et si c'est un impair, c'est moi qui gagne sur une opposition, ça permet de gérer de façon assez simple et du coup, en plus, très très, limpide. Et c'est des dynamiques qu'on trouve finalement dans le jeu de société, c'est-à-dire que c'est la mécanique du jeu qui va arbitrer les oppositions entre deux joueuses, mais du coup effectivement on n'a pas nécessairement besoin. Et puis après on reste dans une logique de dynamique collaborative, c'est-à-dire qu'on est là pour jouer ensemble et raconter quelque chose ensemble. Si on est là pour se tirer la bourre, il y a des jeux qui sont bien faits pour ça. Je ne suis pas entièrement certain que les jeux sans meneur soient les mieux équipés ou que ce soit l'intérêt principal qu'on en ressorte.
Il y a des jeux sans MJ compétitifs. Hein. Par exemple, dans Perdu sous la pluie, se met en place ce que j'appellerais une compétition compassionnelle. On va jouer tous des enfants qui sont perdus sous une averse qui est hantée par des monstres. Et donc chacun, tour à tour, va prendre le contrôle du décor et des figurants. Et en fait, quand tu joues ton enfant, les autres peuvent te donner des jetons pour que tu t'en sortes mieux. Et c'est en fait, à la fin du jeu, gros spoiler, il n'y aura qu'un seul enfant qui va survivre, qui va retrouver ses parents. Et en fait, il y a clairement une compétition qui se met en place pour avoir l'enfant en fait, qui attire le plus la pitié des autres, afin que les autres lui donnent des jetons plutôt que lui mettre des bâtons dans les roues. Dans S'échapper des faubourgs, c'est pareil, c'est une mécanique assez proche puisque c'est un battle royal, c'est un espèce de cauchemar dont un seul PJ peut s'échapper. Bon, il peut en faire s'allier avec un autre, mais et en fait, ça fonctionne avec des mécaniques qui viennent du jeu de plateau en fait. Clairement, la mécanique de jeu, c'est très très jeu de société. Il n'y a pas de dés, des choses comme ça. Ouais. Et juste sur le conflit. Ce qu'on observe en jeu de rôle sans meneur, encore une fois, ce qu'on va dire, je pense que c'est jamais des généralités, parce qu'il y a quand même une grande variété, hein, mais souvent c'est une granularité différente. C'est-à-dire que jeu de rôle avec MJ, on va être tenté de faire des jets pour plein de petites étapes, par exemple que tu ah bah je vais écouter à la porte, après je vais crocheter, après je vais sonder pour les pièges, tac tac, on fait plein de petits conflits comme ça. Tandis qu'en jeu sans MJ, on a plus tendance à faire des conflits de résolution d'une situation de masse, quoi. Mettons, on va faire un seul jet pour gérer toute une pièce, par exemple. Ou s'il y a tout un débat d'idées à la cour ou lors d'un procès, ben pareil, on fait un seul jet de dés pour savoir vers quoi l'opinion globale arrive. Et aussi, ce qui est important, et je terminerai là, sur les conflits, c'est qu'en fait, il va y avoir des conflits, mais souvent sur des... On peut retrouver le truc de... J'essaie de battre un adversaire, mais souvent, on est sur des résolutions, sur des enjeux qui n'ont en fait rien à voir. En fait, on va s'intéresser à autre chose. Je vais prendre un exemple, une partie d'Inflorenza, où j'ai joué un conflit contre un joueur, et je lui dis, si je réussis le conflit, en fait, tu me tues par erreur parce que tu crois qu'on n'est pas dans le même camp. Et en fait, si c'est toi qui réussis, tu te rends compte qu'en fait, on est dans le même camp et on n'a pas à s'entretuer. C'est un peu bizarre parce que grosso modo, je dis si je réussis les dés, je me fais tuer par toi. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était que mon personnage ait une fin tragique et un peu à la Roméo Juliette, c'est-à-dire un petit peu stupide, quoi, clairement. Et voilà, c'est vraiment le type de glissement de terrain profond qu'on peut avoir sur la gestion des conflits en jeu de rôle sans MJ.
Et du coup, on peut tester aussi d'autres dynamiques qui se retrouvent notamment dans De mauvais rêves de Julien Poire. C'est le côté, moi, je me jette dans le ravin et c'est les autres qui vont venir m'en tirer. Et cette dynamique-là, elle est plus difficile à mettre en place dans un jeu avec MJ, parce qu'a priori, il n'est pas là pour ça, il est là pour mettre des obstacles, et nous, on est là pour les franchir. Et là, on joue sur des dynamiques qui sont un peu différentes, qui sont souvent collectives. Et on est là pour co-créer ensemble, et ça permet des dynamiques un peu différentes. Moi, je suis une joueuse de ravin, c'est-à-dire que j'ai tendance à les dégringoler très vite dedans. Et je me retrouve beaucoup dans le jeu sans meneur parce que, justement, quand on joue à Fiasco, que vous connaissez peut-être, qui est un des grands jeux sans MJ, on joue des losers. On joue des films des frères Cohen, donc des losers qui ont des très grandes ambitions. Évidemment, ça va loser, c'est le but, on est là pour ça, on est là pour raconter à quel point le petit détail à la con va faire capoter tout un plan, comment ça se détricote, comment c'est ridicule, mais il y a une jubilation là-dedans qui fait qu'on n'est pas là pour ni s'humilier, ni se ridiculiser les uns les autres, ni s'opposer les uns les autres finalement. Même si nos personnages s'opposent, les joueurs co-créent.
Toute petite chose à rajouter. En étant extrêmement pragmatique, ce qui va servir d'arbitre le plus souvent, ce sont les règles, tout simplement, qui sont souvent travaillées pour gérer ces situations-là, quand le jeu se prête à l'apparition de ce genre de situation. Et comme mes camarades l'ont dit, très souvent, on décale un peu l'enjeu, donc on n'a pas ce problème-là. Mais quand on l'a, il suffit de suivre les règles, et on n'a pas nécessairement besoin d'un arbitre à la table. Comme disait Manuel, quand on fait du jeu de plateau, on n'a pas nécessairement un arbitre à la table. Il y a des règles, on suit les règles, on interprète les règles ensemble, et c'est l'ensemble du groupe qui décide de l'arbitrage. Voilà.
Deux dernières choses très rapides. En premier lieu, ça nécessite quand même une chose indéniablement, c'est du fair play. C'est-à-dire que si quelqu'un vient pour pourrir la partie ou tricher, bah, ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'y aura personne, il y aura pas nécessairement quelqu'un pour rattraper le coup et dire « Ah, tu triches, c'est mal !» et en ayant l'autorité de pouvoir le dire. Donc ça nécessite du fair play. Mais je pense que si vous allez à une table de jeu en étant dans l'esprit de pourrir la table, aller à une autre table, c'est une bonne solution. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, sans meneur ne veut pas dire sans facilitation et sans accompagnement. Il est possible aussi de... ça existe, des parties où il n'y a pas de meneur, mais il y a une personne qui ne fera pas partie des gens qui jouent à proprement parler, qui ne fera pas partie des gens qui sont en train de raconter une histoire, mais qui peut être autour pour expliquer les règles, pour rappeler, pour voir si ça va bien pour tout le monde, qui est un espèce de médiateur, facilitateur. Si vous allez au pôle ludique, vous le verrez sur plein de tables de jeux de société, c'est-à-dire que les animateurs, ils ne sont pas nécessairement en train de jouer, mais ils expliquent les règles et ils accompagnent les joueurs. Et ben, en jeu sans meneur, ça peut exister parfaitement de la même façon.
Ok. Il y a plein de questions.
Alors, je vais sans doute poser une question très stupide, mais moi, je suis venu parce que je ne connais pas du tout le jeu de rôle sans meneur. Et donc, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est l'intérêt sur du jeu de rôle, entre guillemets, plus traditionnel, quoi ?
Alors, je vais répondre rapide. L'intérêt, on pourrait dire simplement, c'est une autre façon de jouer. Donc l'intérêt très pragmatique, c'est on est quatre, on fait une soirée, personne n'a envie d'être meneur, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on va sortir un jeu sans meneur, par exemple. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Bah, ce sont des jeux comme du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle. Est-ce que c'est vraiment du jeu de rôle ? On a un super site qui répertorie plus de 300 jeux sans meneur qui s'appelle « C'est pas du JDR ». C'est pas du jeu de rôle, hein, fait par Mathieu B, vous trouverez ça, on vous donnera l'adresse. Il y a une liste incroyable de jeux extrêmement divers. Et c'est ça qui va pouvoir répondre à la question. Qu'est-ce que c'est ? Bah, il y a autant de réponses que de jeux qui existent. Donc on a des jeux où on fait des explorations de donjons, on a des jeux où on fait des histoires de losers magnifiques, on a des jeux qui vont se concentrer sur les problématiques morales, notamment Influenza Minima par exemple.
Alors, Influenza Minima, c'est censé être un jeu sans MJ, mais à la fin, il y a une petite clause pour enlever le MJ.
Voilà, donc on est autour de la table, on va raconter ce que font nos persos, parfois on va raconter le monde autour de nos personnages, parfois la responsabilité de cadrer une scène va varier, va tourner de personne en personne, voilà, il y a énormément de dispositifs différents.
Eh bien, il va y avoir une autre question, ça circule.
Par rapport au jeu de rôle classique, comment avance la narration dans un jeu sans meneur, les événements de la partie
Elle avance très bien.
Par quel moyen
Fondamentalement, c'est vrai que comme il n'y a pas de meneur, il y a des dynamiques un petit peu différentes. Notamment, les joueuses ne vont pas seulement jouer leur personnage, mais vont avoir de l'emprise sur le récit de façon générale, c'est-à-dire décrire le décor, éventuellement incarner des PNJ quand son propre personnage n'est pas présent dans la scène, faire intervenir des éléments tiers. Donc souvent, pas tous, hein, mais souvent, les jeux sans meneur ont des systèmes de scène par scène avec un séquençage assez limpide qui permet de passer d'une joueuse qui est un peu au centre de la scène à une autre plus facilement. À nouveau, ce n'est pas systématique, il y a plein de variantes, mais ça permet de faire avancer, sachant que généralement, quand on est en scène par scène, il y a l'idée de cadrer, ok, où est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer, et puis on joue la scène avec des PNJ qui rentrent, qui sortent, des nouvelles actions, des retournements de situations qui sont proposées, soit par la joueuse qui est au centre de la scène, soit par d'autres joueuses, et il y a l'idée de s'amuser à se surprendre ensemble. Il y a des choses qu'on fait moins, on ne fait pas trop du jeu à mystère comme on peut le faire sur du jeu avec meneur, parce que ça a moins d'intérêt tout simplement. Il y a, dans ce cadre de jeu, il y a plus de jubilation à jouer la révélation. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de l'interprétation et moins de l'exploration d'un univers préexistant ou d'une intrigue préexistante.
Il y a aussi des techniques pour que ça ait de la gueule. Il y a notamment beaucoup de choses qui sont empruntées au théâtre d'improvisation, de réutiliser des éléments qui ont déjà été utilisés, de s'appuyer sur des motifs récurrents, etc., pour avoir un fil rouge et avoir vraiment l'impression que l'histoire se construit sous nos yeux sans qu'elle ait été préparée par quelqu'un, sans que quelqu'un la connaisse à l'avance, et qui semble juste une évidence pour tout le monde. Et sauf que, voilà, 5 minutes avant, on ne savait pas que ça allait aller dans cette direction. Mais maintenant que ça y va, on se dit, bah, c'était évident, ça pouvait aller que là. Il y a cette espèce de chose qui se produit à la table au fur et à mesure que ça avance et qu'on construit ensemble.
Il y a aussi, parmi les mécaniques qu'on peut trouver en fait, pour générer de l'histoire, tu as des outils en fait, qui sont procéduraux, hein, comme le Mythic Game Master Emulator, il y a le jeu de cartes Musée Oracle de Saladin. On va trouver comme Imagia du Grumph, qui est un jeu de cartes, c'est juste des images, mais ça donnait des inspirations. On peut utiliser tout un tas de tables aléatoires, je pense tout bêtement aux 36 situations dramatiques de Paul T. Donc voilà, avec 2D6, on peut sortir une situation dramatique. Et il y a aussi des. Souvent, ça part de dynamiques qui sont créées au début de partie, soit avec une création d'univers à plusieurs, soit basées sur les objectifs des personnages, soit basées sur les liens entre les personnages. Donc on va créer en fait plein de départs de feu bah, qui vont en fait assez organiquement prendre feu, justement. On a des fois des mécaniques en fait dans la mathématique comme In Forenza en fait c'est vraiment la mathématique des dés les probas des dés qui vont créer tout un tas de coups de théâtre qui vont transformer les personnages. Le personnage qui était un gros salaud au départ va devenir une victime et ainsi de suite. Pour aller vraiment vers le tout mécanique, on a un jeu de société qui s'appelait Warhammer Quest. Bon, c'est du porte-monstre-trésor, hein, on est d'accord, mais c'est un porte-monstre-trésor qui se joue sans MJ. Donc tout est généré aléatoirement, les donjons, les monstres, il y a des procédures qui te disent le monstre qui doit attaquer, tout ça, machin. Il y a des procédures pour les événements aléatoires, donc ils vont dire, bah, vous rencontrez un vieillard, il vous dit ça, comment vous réagissez. Il y a des procédures pour aller en ville, tout un tas de trucs, et en fait absolument sans MJ.
Et j'ajouterais qu'il y a aussi des jeux qui prennent tout ça complètement à contre-pied en structurant la narration dans le code du jeu où on va simplement jouer une succession de scènes qui est prévue à l'avance et on va s'intéresser, comme disait Manuel, essentiellement à la narration, à la façon dont l'interprétation des personnages et à la façon dont on va atteindre ces éléments sachant qu'on joue pour aller vers la scène suivante, etc. Voilà.
J'ai juste rajouté aussi vite fait, mais c'est valable dans n'importe quel jeu de rôle, il faut définir vos attentes de jeu. Que ce soit un jeu avec meneur ou sans meneur. C'est-à-dire que vous êtes particulièrement sans meneur si vous n'avez pas de personne pour canaliser l'histoire, une personne extérieure au groupe de personnages joueurs. Il va falloir que vous soyez d'accord dès le départ de savoir vers quoi vous vous tendez, à quoi vous voulez jouer et quelles sont vos attentes. Si vous voulez être plus combat, plus drame, etc.
Je vais juste finir avec un petit truc que j'avais oublié. Autre chose qui met en place la narration de façon assez organique, c'est quand les personnages ont des rituels à accomplir. Dans Ho'oponopono, on joue une famille dysfonctionnelle en fait, qui doit mettre en place un rituel de réconciliation qui passe par avouer son amour à un membre de sa famille, demander pardon et ainsi de suite. Et en fait, ça se fait tout seul, quoi. Imaginez, vous savez, les alcooliques anonymes, ils ont un programme à suivre où tu dois aller voir une personne à qui tu as fait du mal, demander pardon et ainsi de suite. En fait, tu prends ce programme, je pense, tu fais un JDR avec, quoi. Les personnages ont leur programme à suivre et ça a amené forcément plein de situations, quoi.
Une autre question.
Merci. Bonjour. Alors, question faussement naïve, est-ce qu'on pourrait adapter un jeu de rôle très tradit en jeu de rôle sans meneur ? Est-ce qu'on peut adapter un Warhammer ou un Donjons et Dragons en jeu sans meneur ? Et du coup, la vraie question qui est dessous, c'est est-ce que le gameplay d'un jeu sans meneur doit être intégré dans les règles ou pas ?
Est-ce que le gameplay doit être intégré dans les règles d'un jeu ? C'est vraiment une question faussement naïve quand même. Moi je pense que ce qui fait un jeu c'est le gameplay, donc par nature en fait on peut jouer à Fiasco dans l'univers dans le vieux monde, voilà, de Warhammer. C'est tout à fait imaginable et possible, ou à In Florenza dans la forêt de Millevaux pour le coup.
Dans la forêt noire de
Tolkien, c'est pas forcément un problème. Donc il y a une vraie décorrélation entre ce qu'on propose comme expérience de jeu d'un côté, qui est associé aux règles et à la façon dont on va interagir et se raconter une histoire ensemble et se donner la parole et savoir qui a droit de raconter quoi quand, et l'univers dans lequel on le place. Mais en fait, en jeu de rôle avec meneur, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la corrélation n'est pas toujours hyper forte entre les mécaniques de jeu et l'univers dans lequel ça se trouve. Et la réalité, c'est qu'on pourrait changer les mécaniques de jeu, jouer dans le même univers, mais on irait explorer autre chose parce que les mécaniques, elles proposent une expérience dédiée. Voilà ce que j'entends par le fait que c'est le gameplay qui fait le jeu. Donc oui, on peut transposer. Après, ça dépend ce qu'on appelle transposer. C'est-à-dire que faire du jeu sans meneur avec les règles d'un jeu avec meneur aura pas nécessairement un bon gros taux de réussite. Réutiliser des univers déjà existants, ça se fait assez bien. Reste à régler la question du est-ce que tout le monde est bien sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'on exploite dans l'univers.
J'ajouterais qu'il y a des techniques qui permettent de passer de jeux classiques comme Donjons et Dragons, comme l'exploration de donjons, à du jeu solo. Donc sans meneur, avec un seul joueur, et qu'on pourrait exploiter pour jouer sans meneur. Dans ces cas-là, on a un donjon à explorer avec des plans, des pièges prévus, des monstres prévus, et alors j'ai oublié le nom du document en question, mais on a dans ce cas-là, par exemple, une routine qui est créée pour le monstre, où on dit au tour 1, il va attaquer le PJ, au tour 2, il va reculer, enfin, etc. Et c'est des choses qui sont fixées, et on peut très bien imaginer jouer comme ça, avec l'adversité qui suit un schéma fixé. Voilà, comme dans un jeu vidéo. Enfin, comme dans certains jeux vidéo.
Moi, j'ai une autre question. C'est pourquoi, en fait, pourquoi on irait traduire un jeu de rôle avec meneur en jeu sans meneur? Enfin, après tout, si on a fait un autre truc, c'est pas pour refaire la même chose avec. Et tant qu'à faire, autant aller explorer tout ce que permet le jeu sans meneur et que le jeu avec meneur ne faisait pas. Si c'est pour refaire la même chose en moins bien, je ne vois pas l'intérêt de retraduire. Quoi.
Ouais, parce qu'on en connaît qui relook des jeux sans MJ en porte-monstre trésor. Je trouve ça vraiment racoleur. Hein.
Je ne vois pas de quoi tu parles.
On continue.
Merci beaucoup. Ça va être une remarque peut-être un peu provocatrice, je ne sais pas trop. J'entends jouer sans meneur, j'ai l'impression que le jeu sans meneur, c'est surtout le jeu où tout le monde est meneur. Mais au-delà de ça, je voulais savoir si vous aviez conscience de jeu, parce que tout à coup, je commence à y penser, où plutôt que de penser à la logique d'avoir qu'un seul meneur qui dirige une équipe de joueuses, d'avoir 5 meneurs ou maîtres de jeu qui dirigent un seul joueur et qui prennent la charge de la description du son, la description des visuels, la description des ennemis, et qui doivent pour le coup créer une sorte de cadavre exquis narratif tous ensemble dans l'immédiateté.
Écoute, tu vas sur trolompalu.fr, tu as des jeux en une page, et en fait c'est un truc qu'on a mis dans la sélection, dans l'outil de recherche des jeux. On a des jeux avec un meneur, 0 meneur, 2 meneurs, 3 meneurs, 3 meneurs, 1 joueur, par exemple, pour prendre un que j'ai écrit. Tous les dispositifs existent, tous les dispositifs sont possibles, et ce n'est pas nécessairement du cadre exquis, ça peut être simplement, par exemple, dans un jeu qui s'appelle Un long voyage que j'ai écrit, les 3 meneurs, il y en a un qui représente le passé, un qui représente le présent et un qui représente l'avenir. Celui du passé va jouer en flashback, celui du présent va donner des adversités rencontrées par le personnage unique puisqu'il n'y a qu'un seul joueur, et celui de l'avenir va faire des visions, des flash-forward et ce genre de choses. Voilà.
Je vais te donner quelques exemples de ce qu'on peut imaginer, parce qu'on peut en faire plein des trucs comme ça. Dans un jeu qui s'appelle Perfect Unrevised de Avery Alder, on est tour à tour joueur et meneur. Quand on est meneur exclusivement pour son voisin de gauche, avec les joueurs, les autres joueuses qui vont intervenir sur certains points particuliers, chose qu'on retrouve dans un jeu qui s'appelle Polaris de Ben Lehman, où du coup le rôle de meneur tourne et s'adresse toujours à une joueuse en particulier, et du coup il y a des paires joueuses meneurs. Dans un jeu toujours de Avery Alder, c'est pour nous le bruit ou c'est non c'est derrière. Dans un jeu toujours de Avery Alder, donc il y a un jeu qui s'appelle Dream Rescue où toutes les participantes sont joueuses et en même temps meneuses sur un aspect particulier de l'univers, que ce soit les groupes d'adversaires, le climat qui se ligue contre les personnages principaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les ressources qui se raréfient, et donc le rôle de meneur est éclaté par thématique entre les différentes participantes. Tu as des jeux où effectivement on se retrouve avec cinq meneurs et une joueuse qui peuvent par exemple chacun jouer exclusivement un sens. Tu as des jeux, il y a vraiment plein de formats existants et il y a une richesse, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on le présente comme un bloc qui s'opposerait quelque part au jeu avec meneur, mais en réalité c'est un spectre avec plein de propositions différentes de façon d'interagir entre joueurs. Il existe des... je crois qu'il existe, sinon c'est à inventer. On vous laisse bosser après. Des jeux avec typiquement deux groupes de joueuses qui vont être tour à tour joueuses et meneuses de l'autre groupe. De façon collective. Il y a plein de trucs en fait. Il y a vraiment, enfin, à partir du moment où on a commencé à creuser, c'est le bordel et il y a plein de choses à faire.
D'ailleurs, quand on s'est bien baladé sur ce spectre, on peut arriver à une conclusion, enfin, en tout cas qui est la mienne, c'est qu'en fait, tu peux prendre n'importe quel jeu, prenons par exemple des jeux AMJ, et jouer sans MJ. Et bon, tu peux t'appuyer sur des mécaniques. On a parlé du Mythic Game Master Emulator, tous les trucs de jeux solo, hein, comme il y a From Frustration to Freedom aussi. C'est un guide qui propose des mécaniques. Mais aussi, tu peux le faire comme ça, à la fraîche, en fait, en mode anarchiste. Une fois que tu as vu un peu. En fait, des fois, les mécaniques, ces mécaniques de jeux sans MJ ou à MJ tournant, plusieurs MJ. Des fois, c'est juste pour te. Ça te permet de te rendre compte que c'est possible, après tout. Il y a des personnages, il y a des décors, des figurants, bah ouais, on se sert, tu prends ce que tu veux, tu l'agites un petit moment, après tu passes à autre chose, t'animes, voilà. Et puis, et pareillement, bon, on pourrait prendre des jeux sans MJ, puis remettre du MJ, enfin, après, parce qu'il y a les game designers, mais il y a vous aussi qui jouez, en fait, vous pouvez vous emparer des jeux, et en fait, autant on n'hésite pas à changer le nombre de points de vie des personnages, autant on se dit, ah, le MJ, il ne faudrait pas que j'y touche, il a dit qu'il y avait un MJ, c'est peut-être important, bah, pas forcément, en fait.
Après, je complémenterai la question, enfin, ou ta remarque en tout cas. Est-ce qu'il y a vraiment une différence, à mon avis, selon moi, il y a une différence notable entre prendre un jeu à meneur auquel on retire le meneur et un jeu qui a été conçu déjà à la base sans meneur. Dans le sens où, possiblement, dans une majorité de cas, la mécanique a été étudiée pour pallier au manque de meneur.
Si je peux juste répondre à la place de Thomas, j'ai l'impression que dans ce que tu proposes, et moi c'est ce qui me plaît dans ce que tu fais, c'est pas juste on garde la mécanique, on enlève juste le meneur, c'est on pète tout. Et c'est ça qui est cool. Enfin, je veux dire, on est joueuse, on a le droit de tout péter, quoi.
La différence entre un jeu avec meneur où on enlève le meneur et un jeu prévu d'entrée de jeu pour être sans meneur, c'est la différence entre un vélo où on a enlevé la roue avant et un monocycle. Il y en a un, c'est faisable, mais c'est quand même compliqué.
Si je prends l'exemple de Mauvais Rêve dont on a parlé tout à l'heure, c'est un jeu que j'ai créé sans réfléchir au fait qu'il ait eu un MJ ou pas au départ. Et au fur et à mesure de l'avancement de la création, je me suis rendu compte qu'au moment où je me suis dit « Tiens, alors qu'est-ce qu'il va faire le MJ ?» Et je me suis rendu compte « Bah non, en fait, il ne sert à rien. Donc autant pas le mettre. » Donc voilà.
Néanmoins. Pardon.
Très rapidement... dans beaucoup de jeux, en fait, les MJ sont très cadrés. Alors pourquoi pas prendre la campagne Laurent Express où tout ce que doit faire le MJ est listé, hein, de toute façon. On se dit, tant pis, on joue pas. Un truc généralement qui saute, mais encore on peut le garder, qui saute en jeu sans MJ, c'est le secret, le jeu caché. On joue beaucoup en transparence. C'est possible de faire du jeu caché, hein, ça peut être même très intéressant. Mais lui, on dit, on se prend la campagne de Laurent Express. C'est pas grave pour les secrets, c'est-à-dire que n'importe qui a le droit de regarder ce qu'il y a dans tel wagon. Et puis du coup, bah tiens, tel PNJ qui est dans tel wagon, je vais le jouer. Bah tu vas voir le wagon, bah tiens, je te fais le PNJ et tout. Voilà, en fait, on est souvent sur des jeux qui sont très très outillés. Et ces outils, il suffit juste de les utiliser un peu différemment, quoi.
La première étape, si jamais jouer sans meneur, ça vous fout les jetons. Ça peut, c'est pas grave. Mais la première étape qu'on peut essayer sur du jeu avec meneur, notamment quand on est meneur, quand on est joueuse, on peut aussi aller le chercher un peu, mais quand on est meneur, si on veut lâcher un peu de lest, c'est accepter une part de décorrélation entre le rôle joueuse et le rôle PJ. C'est-à-dire donner la possibilité aux joueuses d'avoir du contrôle sur autre chose que juste leur personnage. Typiquement, si elles posent une question, leur envoyer la question en disant « Je ne sais pas, à ton avis ?» et considérer leur réponse comme vraie. Est-ce qu'il y a un cyclope dans ce donjon ? Je ne sais pas, à ton avis ? À mon avis, oui, mais un cyclope borgne. Ok, on est parti. Oui, c'est compliqué. Mais voilà, ça c'est faisable. Et globalement, c'est assez intéressant à tester parce que ça permet tranquillement de faire avancer l'idée si on sent qu'on a des joueuses qui ne sont pas prêtes à jouer sur des jeux sans meneur parce qu'elles sont plutôt habituées à des trucs un peu plus posés. Et en même temps, il y a des gens chez qui ça allume une étincelle de « Ah, mais j'ai le droit de faire ça, en fait !» Et ça ouvre la possibilité de faire travailler 5 cerveaux ensemble pour créer de l'univers et de l'histoire plutôt qu'un cerveau qui va aller dévoiler des choses aux autres. Moi, je trouve que 5 cerveaux, ça fonctionne mieux qu'un seul.
Alors, puisqu'on en est dans les trucs et astuces, il y a aussi le truc de ne pas...
Prototype de génie, écoutez-moi.
Alors, ça, c'est une démarche. Il y a aussi sauter dans le grand bain, sans passer par la pataugeoire, parce que, comment dire, on ne sait pas ce qui va sortir tant qu'on n'est pas dans le grand bain. Il y a des joueuses qui n'osent pas se lancer dans le jeu sans meneur parce qu'il faudrait qu'elles parlent et elles ne savent pas si elles auront la créativité nécessaire et suffisante pour alimenter toute une partie. Il y a des joueuses qui préféreraient se laisser porter. Alors, c'est un choix, c'est une préférence, c'est un goût et c'est OK, il n'y a aucun problème. Mais pour tester le jeu sans meneur, des fois, on est très timide. Et on se retrouve sous les projos, c'est notre tour, personne parle. Et c'est notre tour, personne va prendre la parole, nous tendre une perche ou un truc comme ça pour détourner l'attention sur autre chose. Il faut y aller. Et il y a des gens comme ça qui explosent et qui éclosent. Et qui du coup, font de très belles choses et qui a un verrou qui a sauté. Et qui n'aurait pas forcément pu si on n'y avait été que par tout petite touche, quoi. Des fois, enlever la sécurité, c'est pas mal. Je parle pas de la sécurité émotionnelle.
Et ce qui est très intéressant dans ces cas-là aussi, c'est que dans un jeu avec meneur, on a l'excuse de laisser la gestion de la table, de la gestion du temps de parole et l'attention aux autres personnes autour de la table à cette personne qui représente l'autorité. Quand on n'a plus cette personne qui représente l'autorité, on est obligé de faire attention. Enfin, on devrait en tout cas faire attention les uns aux autres. Et moi, ce que j'ai vu fréquemment dans des jeux qui impliquent des co-créations, des créations collaboratives d'univers avant de commencer la partie, par exemple, fréquemment, on va avoir des pannes. On n'est pas du tout inspiré. Tout le monde se tait. On attend que la personne parle, ça marche pas, et ben on va suggérer une idée qui va être prise, qui va être rejetée. Peut-être que le fait de simplement suggérer l'idée va déclencher un processus chez la personne qui se taisait pour que l'idée apparaisse. Et cette attention aux autres, ce soutien qu'on va s'apporter, il est plus facilement présent quand on est tous responsables de la partie que lorsque on a une personne qu'on peut blâmer si ça marche pas. Parce qu'évidemment, quand ça marche pas, c'est la faute du meneur, etc.
C'est souvent des jeux relativement courts aussi, par rapport à du jeu qu'on dira traditionnel. On ne fait pas des campagnes de 5 ans, rarement, hein, des jeux avec des campagnes de 5 ans, genre toutes les semaines sur des jeux sans meneur. C'est intéressant en termes d'accessibilité, c'est-à-dire que c'est des jeux qui, assez contre-intuitivement, parce que quand on est un rôliste un peu aguerri, on se dit « Ouh, c'est compliqué quand même », mais contre-intuitivement, c'est des jeux qui sont souvent assez faciles en termes de prise en main pour des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle de leur vie. Limite, ils prennent ça plus facilement en main que ils ou elles prennent ça plus facilement en main que des jeux avec meneur, parce que le réflexe de demander l'autorisation de est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ça, c'est un truc qui s'acquiert, mais en réalité, quelqu'un qui a jamais fait de jeu sans meneur, on lui dit ok, bah là tu joues tel personnage, tu racontes ce qui se passe, il est chaud, hein, il raconte des trucs assez facilement, pas tout le monde, mais il y a plein de gens pour qui ça marche, donc ça peut se tenter, y compris avec des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, et ils jouent une partie, un fiasco, ça se joue en 3 heures, et on a joué une histoire où il s'est passé des tonnes de trucs, vraiment beaucoup, et qui sont extrêmement accessibles. Si vous êtes un petit peu rodé en anglais, Will Wheaton, qui est un animateur de chaîne YouTube américain, qui a fait des apparitions dans The Big Bang Theory, ça vous dira peut-être quelque chose, anime, et dans Star Trek aussi, voilà, animait un podcast, enfin une vidéo qui s'appelait, je crois, Tabletop, me semble-t-il, et il a fait notamment une partie de Fiasco où on voit jouer, sachant que c'est une émission qui parle de jeux de société à la base. Et du coup, on voit des gens jouer à Fiasco, ça permettra peut-être de vous figurer un peu comment ça marche dans ce jeu-là en particulier, qu'on cite beaucoup parce qu'il est merveilleux. Et voilà, c'est aussi l'occasion de voir un peu comment ça marche, mais si jamais on ne sait pas trop par où prendre le bout du truc, quoi.
Il y a aussi des vidéos en français, hein, des vidéos d'In Florenza, notamment assez nombreuses. Nous, on avait fait une vidéo de Mauvais Rêve comme démo du jeu. Donc ça se trouve, hein. Si vous voulez voir des démos, voir comment ça se passe concrètement, sans avoir envie de tester vous-même, vous pouvez. Moi, je vous conseille de tester vous-même, mais si vous voulez aller voir, il y a de la matériel.
Vous avez aussi, rassurez-vous, pour ceux qui aiment les grandes campagnes bien longues, il y a des jeux sans meneur qui tournent sur plusieurs années aussi. Il n'y a pas que des jeux courts. Celui que je développe actuellement est en test depuis plus d'un an et demi de campagne, à raison d'une partie par semaine, et ça fonctionne, il n'y a pas de souci.
C'est ce qu'il nous reste ?
Oui, merci. Une autre question, plus peut-être vers le fond, parce qu'il y en a, le fond lève la main, certains lèvent la main dans le fond. Il y a une main levée.
Excusez-moi, j'ai le micro. Bonjour.
Bonjour. Ah, c'est toi qui as le micro, d'accord.
J'aurais une question à vous poser. J'aimerais vous demander comment on crée un jeu sans meneur, mais c'est peut-être un petit peu large comme question. Du coup, je vais plutôt vous demander quels sont les... Est-ce que vous avez une mécanique, chacun d'entre vous, dans un jeu sans meneur qui vous plaît particulièrement ?
Il y a plein de mécaniques cool. Moi, ce que j'aime bien, c'est laisser la personne dire quand elle lance les dés. Parce que du coup, il n'y a plus de MJ pour te dire qu'il y a besoin de les lancer. Et tout. Donc, à une Forensa, on fait comme ça. On lance les dés quand on a envie de lancer les dés. On peut dénouer une situation ultra épineuse juste en pur narratif sans lancer les dés parce qu'on se dit non, mais... C'est pas le moment vraiment compliqué pour le personnage. Et puis lancer les dés sur un truc hyper intime, hyper simple, parce que là, on a l'impression qu'il y a un truc qui se noue, on ne veut pas décider tout seul. Et tu laisses la joueuse annoncer elle-même ce qui se passe si elle réussit son lancer de dés. Moi, personnellement, je la laisse aussi dire ce qui se passe si elle rate. En fait, on fixe les enjeux à l'avance. Et après, en fait, on raconte, après ou pendant, on raconte comment ça se passe. C'est bien que ta mécanique de dés, enfin, si tu as des dés, permette quand même de raconter le pendant. Parce que juste lancer les dés et puis raconter ce qui se passe après, ça peut être très bien, mais en fait, tu vas en trouver, il y en a qui vont trouver ça anti-immersif. Donc il faut qu'on ait une mécanique qui puisse accompagner la narration pour qu'on retrouve un petit peu quand même ce feeling que tu as dans les jeux avec MJ, où on a l'impression de voir vraiment l'action se passer de façon assez réaliste. On voit tous les enchaînements, alors que des fois, c'est une mécanique de conflit en jeu sans MJ. C'est OK, donc vous avez gagné la bataille. Comment ça s'est passé ? Ah bah on ne sait pas, on est juste lancé les dés. Du coup, on invente un truc après, et ça peut sonner un peu artificiel.
J'ai trop de... faut choisir. Il y a dans Prosopopée, qui est un jeu un peu contemplatif...
C'est un jeu avec MJ, il y en a même deux.
Non, c'est pas des MJ. Alors, il y a... OK. Il y a plusieurs personnes qui s'occupent du décor, d'éventuellement de générer des problèmes, etc. Il y a plusieurs personnes qui gèrent des personnages, etc. On est dans l'espèce d'entre-deux que décrivait tout à l'heure Manuel. Il y a le fait que toutes les joueuses peuvent se donner un dé, en fait. Il y a une espèce de brouette de dé au milieu et on peut en prendre un et le donner à quelqu'un quand on kiffe vraiment ce qu'il fait. Et c'est quelque chose, c'est un geste que je trouve très beau, et c'est quelque chose qui crée tout de suite une ambiance à la table de je sais pas, d'attention, de co-création, etc. On crée ensemble, on se dit qu'on s'aime quelque part, et c'est un geste très beau que je trouve dans ce jeu. Ça.
Moi, je suis en train de bosser sur un jeu sans meneur, donc en ce moment, ma mécanique préférée, celle sur laquelle je bosse. Parce que voilà, sinon ça ne sert à rien que je bosse dessus, qui n'est pas très éloigné, puisque pour le coup, on est dans un système de récompense aussi où, en tant que PJ, on ne peut mettre son personnage globalement que dans des situations compliquées et difficiles, sauf à dépenser beaucoup de ressources. Et on ne gagne de ressources que quand on aide un autre personnage. Et c'est l'autre. C'est la joueuse de l'autre personnage qui décide s'il considère qu'on l'a aidé ou pas et qui va nous donner, ou en tout cas nous présenter les ressources. Et donc on est dans une notion de don et de, en gros, est-ce que si je considère que telle ou telle joueuse a amené dans l'histoire une action qui me fait du bien, à ce moment-là, je la remercie, je la récompense, je l'aide. Et c'est des mécaniques interpersonnes que je trouve intéressantes, en ce moment en tout cas.
Bon, je suis un peu embêté parce que globalement, ça retourne autour de ce que je voulais dire.
C'était le moment bisounours.
Voilà, c'est ça. Moi, la mécanique qui m'a tenu particulièrement à cœur dans les jeux sans meneur que j'ai fait, c'est une mécanique où, dans un jeu traditionnel classique avec meneur, on a une adversité qui est posée et le meneur de jeu a pour rôle de mettre les personnages mal et de voir comment ils s'en sortent. La mécanique que j'ai adorée, c'est l'inverse. C'est le joueur, la joueuse, qui met son personnage mal et qui attend que les autres viennent le soutenir, la soutenir. Par plein de manières, par des dons, comme on a dit, par des sacrifices, éventuellement, simplement en racontant des belles choses. Et ce côté, je vous présente mon personnage à nu, mon personnage, si vous ne l'aidez pas, c'est la merde, quoi. Soit il va crever, soit il va y avoir des problèmes, etc. Et bah, ça dépend de vous à la table. Venez m'aider, je vous offre la possibilité de m'aider, venez le faire. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, tourner autour de la mécanique qui devient possible, la dynamique à la table qui devient possible à partir du moment où on n'a plus une personne qui domine l'histoire, mais où on a une responsabilité complètement partagée et où on accepte de se livrer aux autres de cette manière-là.
Je vous coupe un peu parce qu'on va laisser la place pour une dernière question rapide. Déjà, oui. Donc, est-ce qu'il y avait des questions là-bas ?
Bonjour. En fait, dans tout ce que vous décrivez, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un jeu sans scénario que d'un jeu sans meneur. Parce que le principe, c'est que le gameplay crée le scénario avec des acteurs, meneurs, joueurs, joueuses, comme vous voulez, qui travaillent, mais il n'y a pas de scénario au départ puisqu'on l'écrit au fur et à mesure.
Oui, ça dépend. Il y a des jeux avec un scénario fixé dès le départ qu'on va suivre. Moi, je ne joue jamais avec scénario, qui est meneur ou pas à la table. Donc, ce n'est pas spécifique pour moi, cet aspect-là. Il s'agit de savoir qui a le droit de dire la vérité dans le monde du jeu. Si j'ai un scénario fixé, ça peut être le scénario qui dit la vérité, l'écrit, le jeu. Si j'ai une personne, on peut donner la responsabilité à une personne. Dans les jeux sans meneur, on ne donne pas la responsabilité en général à une personne, mais chacun a la même part et on joue de manière égalitaire de ce point de vue-là. Donc pour moi, la différence, elle est là, en fait.
Alors, tu as en partie raison, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux sans meneur qui présentent plus des techniques pour jouer à l'improvoso. Hein. Ceci dit, il y en a aussi avec des scénarios. Dans Inforenza, il y a ce qu'on appelle des théâtres, où en fait, on te présente un contexte et toute une série de thématiques. Alors, il n'y a pas d'événement prescrit, hein, mais tous les scénarios n'en ont pas. Hein. En fait, c'est un bac à sable, c'est un scénario bac à sable. T'avais cité Perfect. Perfect, on peut considérer qu'il y a un scénario, c'est-à-dire qu'il y a une structure narrative. Grosso modo, les personnages vont commettre des crimes, ils vont se faire attraper par la police de la pensée, ils vont se faire torturer, relâcher, ils vont recommettre des crimes, se refaire attraper, et ainsi de suite. Donc, il y a une... Bon, apparemment, je me gourre sur la structure. Ok.
Je disais la vie de rêve.
Voilà. C'est vraiment le jeu feel good. Et on avait parlé du jeu à secret. J'ai un jeu qui s'appelle Psychomeurtre. On joue des enquêteurs qui pourchassent un serial killer. De base, c'est un jeu avec MJ. Le MJ, en fait, sa préparation, c'est qu'il doit préparer 7 paramètres concernant le serial killer que les enquêteurs vont devoir découvrir. En fait, il y a 7 aspects de ce tueur qui doivent être dévoilés pour arriver jusqu'à lui. En fait, le mode sans MJ, c'est assez simple. On se répartit les paramètres. Et donc, chaque joueuse va écrire un paramètre. Alors, évidemment, quand il s'agit d'enquêter sur ce paramètre en question, par exemple, quelle va être la prochaine victime du serial killer ou de quelle pathologie souffre-t-il, eh bien, celle qui a écrit le paramètre ne doit pas participer à l'enquête. Son personnage est en train de faire de la paperasse pendant ce temps-là. Et c'est les autres qui essayent de deviner. Et puis, si elles devinent, c'est bon, c'était bien ce paramètre-là. Ça fonctionne parce que les paramètres sont écrits de façon à ce qu'ils sont assez dissociés les uns des autres. Donc, il n'y a pas parce que le risque avec le jeu à secret en création partagée, c'est que... le gars amène une situation et tu sais pas comment la coller avec ta propre préparation. Donc il faut des choses un petit peu décorrélées, quoi.
Tu peux ?
Non, moi j'ai rien à dire. Je joue sans scénario, qui est un MJ ou pas. Donc
c'est exactement ce que j'allais dire. Jouer avec un scénario ou pas, ou jouer dans un bac à sable, comme communément on l'appelle, qui est meneur ou pas. Ça ne change rien, c'est pas une propriété propre au jeu sans meneur. On a encore le temps pour une petite question, ça a été court là la réponse, donc c'est bien. Est-ce qu'on a des micros par là-bas, en plein milieu ? Oui, au milieu.
Merci. Bonjour. Au tout début de la conférence, vous sépariez les termes de jeu sans meneur et de jeu tous meneurs. Et là, de la description que vous nous faites du jeu sans meneur, on a l'impression de reconnaître un petit peu plus du jeu tout meneur où le rôle de meneur se passe entre les uns et les autres. Donc c'est quoi la différence au final ?
c'est parce qu'on a des très mauvais réflexes. C'est compliqué parce qu'on est coincé avec des termes qui sont issus d'une pratique un peu différente et on les réinjecte au pied de biche. Moi, ce que je fais, la différence que je fais, c'est que le tandem MJ-PJ, il y a une dynamique hyper particulière. C'est-à-dire qu'en tant que joueuse, je suis censée jouer vraiment juste mon personnage, ne pas trop déborder. Et le MJ est censé assurer, avoir un rôle un peu en surplomb. Il y a une posture et une façon de jouer qui est quand même hyper particulière, qui, à mon avis et de mon point de vue, n'a pas forcément sa place dans un jeu sans MJ. Si tout le monde joue comme un meneur dans un jeu sans MJ, c'est-à-dire en essayant un peu de considérer les autres comme des PJ, c'est-à-dire d'asseoir sa vision de l'histoire, de là où on va, etc., ça ne marche pas. Si on joue comme des PJ, c'est-à-dire en attendant que quelqu'un vienne gérer l'histoire, nous amène, nous guide et nous transmet, ça ne marche pas non plus. Il faut qu'on trouve, en tant que joueuse de jeu sans MJ, on a une posture qui est floue, qui est mouvante entre ces extrêmes-là et qui n'a juste pas le même sens en fait. Après, on peut avoir des autorités différentes sur certains points, sur certains thèmes, sur certains rôles, sur certains trucs, à certains moments. Et c'est là où, par peut-être abus de langage ou dérivé du langage, on parle de MJ, en fait, parce qu'on parle de figurants, de décors, etc. Mais je pense plus à comment dire, une autorité sur l'histoire et une attitude de actif-passif, un petit peu.
Une attitude de question, en fait, c'est quelque chose que tu nous disais en préparation. Les questions qui sont posées par le joueur au meneur pour attendre validation, en fait. Si on est tous meneurs, qui pose les questions, qui valide les réponses? S'il n'y a pas de joueur, c'est compliqué.
Alors que dans un jeu sans MJ, les joueuses font essentiellement des affirmations, en fait. C'est des grosses tendances, hein, évidemment, bien sûr qu'on se pose des questions, etc. Mais on avance essentiellement en faisant des affirmations. Je vous invite à creuser sur le net. Il y a Valentin Touzeau, qui est un linguiste et qui écoute en fait des kilomètres de parties, que ce soit en ligne ou IRL, avec un petit carnet. Et il note, est-ce que c'est une affirmation, est-ce que c'est une question, etc. Et il en ressort comme ça des espèces de gameplay linguistique qui sont hyper intéressants. Et s'il y a un MJ, le gameplay linguistique n'est pas le même que s'il n'y en a pas.
Pour passer en fait à du jeu tous meneuses au jeu tous PJ, que tu appelles un peu de tes voeux, c'est vrai qu'il faut, un peu comme tu l'as dit, il faut se sortir de la logique MJ tournant, quoi, où c'est-à-dire, c'est à ton tour de faire MJ, donc tu vas faire MJ pour les autres, et ainsi ton tour. Il faut complètement défragmenter cette idée. C'est juste qu'il y a un moment, tu te sens de parler de tel décor, tu le fais, et puis le reste du temps, tu restes en PJ. Et aussi, ce qui me paraît important, c'est un petit peu moins considérer décors et figurants comme les moteurs de l'intrigue. En fait, les moteurs, ce sont les personnages des joueuses. Et voire même, on peut aller encore plus loin en enlevant carrément le décor et les figurants. Dans Ho'oponopono, on fait un rituel de guérison au sein d'une famille. Le décor et les figurants sont quasiment absents. La seule chose qu'il y a, c'est les personnages. C'est des choses qu'on va retrouver du coup, de façon très exacerbée dans tout ce qui est GN sans orga. Par exemple, Merde Montrain, c'est un jeu de KF où on doit aller à un quai de gare, on attend le train et on se fait chier. Et puis, il faut jouer autour de ça, quoi. C'est juste centré autour de toi, quoi. En fait, c'est presque... Quand on arrive à faire... À faire dialoguer des intimes, voilà.
Manuel, non, t'avais quelque chose ?
On fait aussi des jeux avec de la grosse aventure et des dragons. On fait pas que des jeux où on va sur un quai de gare, même si ça peut être très agréable. Et des fois, sur les quais de gare, il y a des dragons. Voilà, c'est tout.
Juste pour reprendre ce qu'on disait et ajouter un tout petit truc, on a toute une culture rôliste à déconstruire en fait. On a tout un tas de réflexes qu'on a intégrés avec et de façons de jouer qu'on a intégrés avec le jeu de rôle traditionnel. Moi qui arrivais par exemple de l'improvisation théâtrale, ça a été une certaine violence en fait de me rendre compte que j'avais pas le droit de dire ça. Eugénie, tu fais de l'anti-jeu, arrête, etc. Parce que j'allais prendre des choses que j'avais pas le droit en tant que joueuse. comment dire, il faut qu'on, maintenant ces interdits-là, il faut les arriver à les déconstruire pour reconstruire une autre culture rôliste pour pouvoir vraiment s'épanouir dans un jeu sans meneur. Les deux sont viables, je veux dire, je kiffe les deux, il y a pas de problème, mais j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation pour l'un et j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation pour l'autre aussi.
Moi, simplement, c'est que tout le monde autour de la table a la même chose devant lui, une feuille de personnage, point barre. Ce qui fait la différence entre meneur, tous meneurs ou sans meneur pour ma part. Nous arrivons à la fin. Petit point, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours venir nous voir pour discuter un peu plus. Des jeux sont disponibles à la boutique Sortilège en bas, devant le pôle ludique, si jamais vous voulez y jeter un œil, etc.
Et jeux sans meneur.
Jeux sans meneur.
Ce soir, il y a une Forenza nuit ludique qui sont MG.
Voilà, il y a la nuit ludique, il y aura du jeu sans meneur également. Et nous sommes également, nous proposons des parties au pôle ludique également, si vous voulez venir tester.
Venez jouer, ça va être fun.
Merci à vous.